Alors, à ma droite, Jean-Jacques Cannes, donc, est un réalisateur expérimenté, mais pas vraiment expérimenté en matière d'animation. Complètement débutant, il aura l'occasion de parler de son début d'expérience dans ce domaine. Et puis, Frank Van Leeuwen, qui est à sa gauche, lui est un créateur graphique, il est enseignant aussi à l'ESRA. Vous allez pouvoir découvrir son univers graphique. Et tous les deux, ils vont nous présenter le long métrage Young Perez. Ce sera le dernier projet présenté. Juste à ma droite, Claire Fouquet est-elle réalisatrice de courts-métrages et enseignante aussi à l'ESI. Et donc, elle va nous parler de Peau d'Orange. C'est aussi quelqu'un qui est très curieux. Hein? Peau d'Orange, Peau d'Orange. Et c'est aussi quelqu'un qui est très curieux pour tout ce qui touche à l'animation. Et puis, à ma gauche, Jeanne Parturle et Cécile Rousset, qui vont nous parler de. Alors, ça s'appelle le COD ou le Edo Coquelicot. Alors, elles se sont rencontrées toutes les deux aux Arts Déco. Hein, vous êtes la même promotion, puis vous avez plusieurs fois collaboré ensemble. D'ailleurs, Claire a aussi été formée aux Arts Déco. Hein, vous êtes un petit peu avant, si peu. Voilà, et ben je vais vous demander à tous les quatre de redescendre et puis on va avoir la présentation du projet de Claire Fouquet, Peau d'Orange.
Au secours, il faut que je prenne un micro. Alors, il faut savoir que les animateurs sont généralement pas très à l'aise sur scène et pas très à l'aise avec les micros. Ils ont plus l'habitude d'être derrière leur table à dessin et de se planquer pendant des mois et des années pour faire leurs animations. Donc, excusez-moi si c'est pas tout à fait mon médium. Donc,
voilà. Je pense que tu te débrouilles très bien. Allez, vas-y.
Merci Olivier. Donc, je vais aller chercher déjà une petite image, histoire que pas parler trop dans le vide. Comme ça, on va pouvoir avoir quelque chose sous les yeux. Voilà. Voilà une petite image. Donc voilà, donc Claire Fouquet, je suis artiste, je suis réalisatrice, comme a dit Olivier, j'enseigne aussi. Et dernièrement, je me suis découverte aventurière. Aventurière parce que j'ai été faire un voyage en bateau. Alors ça paraît pas grand-chose, mais ça a changé beaucoup de choses pour moi. Voilà, j'ai rencontré des aventuriers à La Rochelle. Ils m'ont appelé. En fait, c'est une amie monteuse avec qui j'ai travaillé, qui est aussi une amie d'enfance, qui m'appelle en me disant: Dites donc, Claire, on part pour 3 mois, on va traverser l'Atlantique. Est-ce que tu voudrais bien venir nous dire au revoir? Alors, évidemment, j'y vais. Je vais leur dire au revoir. On fait un petit tour en bateau dans la baie de La Rochelle avec eux. Et là, vraiment, pour moi, cette rencontre, ça a été quelque chose d'extrêmement fort, hein, parce que je me suis dit: Mais c'est incroyable, il y a des aventuriers. En plein XXe siècle, des gens qui partent, pour certains juste pour 3 mois, pour certains c'était vraiment un projet de vie sur le bateau. Les propriétaires du bateau, c'était des jeunes trentenaires, ils avaient déjà un tour du monde à la voile à leur actif, un tour du monde qu'ils avaient partagé avec des handicapés moteurs de l'association Passerelle. Donc vraiment des personnages absolument incroyables. Et tout ça, ça m'a remis en cause, en fait, ça a remis en cause complètement la vie que j'avais. Voilà, j'avais un travail, j'en ai toujours un, mais c'est pas forcément le même. J'avais un compagnon, j'avais une vie qui ronronnait, mais est-ce que j'étais dans un certain confort? Mais finalement, en les rencontrant, je me suis dit: Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que toute la pression qu'on a, la société, de faire carrière, de réussir ou d'avoir une famille, c'est vraiment les choses importantes? J'ai connu trop de gens qui, parce qu'ils avaient perdu leur boulot ou parce qu'ils avaient été quittés par leur compagne, leur compagnon, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de sens du tout. Et c'est vrai qu'on a tellement de stimuli aujourd'hui. Il faut faire carrière, il faut aussi avoir des enfants, il faut s'en occuper. Et on n'est pas promu ou tout d'un coup, on se dit: Mais voilà. J'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai pas de famille ou je n'ai pas été promu chef de ma section et là c'est le grain de sable et j'ai vu trop de gens sombrer dans des dépressions assez grandes à cause de ça. Et moi, cette rencontre avec ces gens qui prenaient la mer m'a vraiment fait prendre conscience de ça, qu'il était peut-être temps de faire un petit pas de côté. C'est aussi la slow life, hein. Slow food, slow life, juste prendre le temps de faire les choses autrement. Donc j'ai rencontré ces gens-là et j'ai eu envie de partir avec eux. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, on ne peut pas partir tout de suite. Moi, j'avais quand même des engagements que je ne pouvais pas laisser passer, mais j'avais quand même une petite chance, c'est que le temps en bateau, ce n'est pas du tout le temps à terre, ce n'est pas le temps des montres, c'est le temps qu'il fait, c'est le temps qu'il faut. Et donc, en fait, ils ont fait le week-end de départ. Ils étaient censés partir, mais ils sont partis qu'un mois plus tard. Donc grâce à ça, j'ai eu le temps de revenir à La Rochelle, de les voir, vraiment de les rencontrer. C'était vraiment une très très belle rencontre. Et comme ils voulaient partager leur expérience, ils avaient quand même conscience que tout le monde n'a pas forcément la capacité de faire ça. Ils voulaient partager cette expérience à travers des podcasts vidéo qu'ils envoyaient par satellite. C'était déjà à l'époque une première technologie que Apple avait prêté un portable, Sony avait prêté une caméra, Anasis avait prêté le coût des télécommunications satellites. Et je leur ai fait un petit générique animé pour ce podcast. Donc le bateau s'appelle Peau d'Orange. Donc voilà, c'est un petit générique, c'est tout simple. Et c'est ce qui passait en générique des podcasts à chaque podcast. Pour vous montrer un tout petit peu ce que donnaient ces podcasts et ce que donne la vie en bateau, je vous en ai amené un. Alors évidemment, c'est petit puisqu'il fallait quand même que ça passe par les transmissions satellites.
Donc depuis quelques jours, on a...
Borde tes voiles, camarade.
Voilà, donc moi, dans un premier temps, je les ai suivis comme ça. Je les ai suivis avec les podcasts. Le jour où ils sont partis, c'est vrai que je me serais bien cachée dans l'avitaillement. Je les ai aidés à ranger l'avitaillement à bord du bateau. Ils emportaient 50 kilos de farine. C'est un bonhomme de farine, quasiment. Donc j'aurais pu quasiment prendre la place de la farine. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Alors pourquoi autant de farine? C'est parce qu'à bord, quand on fait de la croisière roturière, il n'y a pas de boulangerie. Donc on fait son pain soi-même. Et les pancakes du dimanche, qui étaient à peu près la seule chose qui rythmait le temps. Donc c'est vraiment une autre expérience de vie où on retrouve, on est retourné sur l'essentiel. Et d'être resté à terre et d'avoir ce lien avec le podcast qu'ils envoyaient, ce qu'ils vivaient, qui était vraiment, on n'a plus de vent, on a du vent, comment ça se passe dans l'équipage, comment est-ce qu'on va réussir à être ensemble, comment est-ce qu'on va réussir à être solidaires les uns avec les autres. Et c'est tellement en décalage avec ce que je vivais moi, avec les stress, des deadlines, il faut rendre ça, il faut finir l'animation, il faut avoir ça fait à temps, etc. Il m'a fait dire qu'il fallait absolument que je parte. C'est vrai, quand on a commencé à avoir la porte ouverte sur le large, c'est quand même très difficile de rester à l'intérieur. Et donc voilà, j'ai voulu partir, mais c'était difficile. Mon compagnon n'acceptait pas trop ça, dans le genre, bon, déjà que tu n'es jamais là, là tu veux encore partir, mais en plus c'est dangereux, j'ai peur pour toi, c'est quand même prendre la mer, la croisière roturière, c'est pas rien. Et il en était presque à me dire, d'ailleurs il me l'a dit, c'était, si tu pars, je te quitte. C'est quand même assez difficile, et c'est souvent les gens qui vous veulent du bien qui vous bloque un petit peu dans les évolutions. C'est très difficile que de changer le système, de remettre en cause la façon dont les choses fonctionnent. Mais voilà, là, je l'ai fait, et évidemment, ça a des conséquences, mais...
Donc, tu as choisi le bateau plutôt que ton compagnon, en fait.
C'est pas que j'ai choisi le bateau, j'ai choisi d'être vivante, hein, ce qui est assez différent. C'était pas lui ou moi, c'était... j'avais besoin de remettre à plat les choses dans ma vie.
Donc. On ça, se rend compte que dans la vie quotidienne, tout paraît difficile, on est coincé dans un quotidien.
Voilà. Et donc, je suis partie. Ça, c'est un petit bout d'animatique. Donc, c'est un storyboard avec du son témoin qui essaye d'exprimer ce que je vous raconte là sur l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'étais là, je regardais les podcasts, j'étais un peu avec eux en mer, mais j'étais quand même encore à terre. Et tout d'un coup, tout devient étriqué. On sent qu'il y a quelque chose d'autre à vivre, il y a quelque chose d'autre à faire. Il est important et urgent de changer. Et donc, c'est cette séquence-là où j'essaie d'exprimer ça. Et la voix, c'est une interview réelle, c'est moi, c'est ma voix d'ailleurs. C'est une interview que Tatiana, la réalisatrice des podcasts, a faite quand je suis arrivée à Buenos Aires pour les rejoindre. Donc en fait, sur le projet, la partie documentaire, c'est essentiellement de l'audio. Je suis partie avec mes crayons, mais aussi avec un micro. Et je reviens avec beaucoup d'éléments comme ça. Ça a l'air de rien, mais ça, c'était l'ambiance du bord.
Et ça a l'air pénible.
Ça a l'air terrible. Là, ça va. Ça va. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les bruits sur un bateau sont extrêmement présents. Et vous allez voir que là, je crois qu'on vire de bord. Mais là, normalement, il y a un changement un virement de bord, et ça fait énormément de bruit. Donc j'ai accumulé toute cette matière, que ce soit au niveau des dialogues, qui m'ont servi à écrire le film, et aussi au niveau des sons, qui sont quand même très particuliers. Les sons, alors, je sais pas. Alors, le problème, c'est que quand on est en croisière hôturière, on vire de bord une fois tous les trois jours. Donc, il faut choper le moment, quoi. Il y a un moment, d'ailleurs, dans un des podcasts, le capitaine interviewe sa partenaire de car, qui est d'ailleurs Tatiana, la réalisatrice, qui lui dit « Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant son car ?»« Ah ben, on a viré de bord. C'était les 10 minutes les plus intenses du car. » Et voilà. Donc, j'ai plein de petites anecdotes comme ça qui sont ma matière de base pour écrire. Voilà, donc à partir de ça, j'ai les 80 heures de rush qui sont issues des podcasts, mais qui n'ont pas été tournées spécifiquement pour l'animation. J'ai les audios que j'ai fait moi-même pour avoir du document sur comment on entend la coque craquer quand on est à l'intérieur du bateau, les dialogues, etc., qui m'ont servi à écrire aussi, et les dessins. En fait, je suis partie, j'avais l'intention de faire le film à bord. Voilà, sur le principe de Sébastien Lodenbach, il a fait son journal quand il était aux Arts Déco, on était camarades de classe, donc je l'ai vu faire. Voilà, c'était un petit film par jour, une petite animation par jour, beaucoup de boucles, etc. Où il racontait son intimité, sa vie, ses prises de conscience, etc. Et je me suis dit, c'est parfait, moi, c'est un changement personnel, un changement profond que je vais vivre, que je ne savais pas encore comment, pourquoi. Je savais pourquoi je partais, quelles étaient l'importance, mais qu'est-ce que j'allais vivre, je ne le savais pas encore. Et j'avais envie de retranscrire, de pouvoir... vous offrir, une fois le film fini, ce que j'avais vécu, et vous donner aussi à vous l'envie de partir, l'envie de changer, se dire oui, c'est possible, c'est pas grave, si j'ai un chat, je trouverai bien quelqu'un, si j'ai un compagnon, ben, s'il est assez costaud, ou une campagne, il m'attendra au retour.
Dès le moment où tu as décidé de partir, tu as décidé d'en faire un film.
Oui, avant même de mettre le pied sur le bateau. Mmh. Alors ce qu'il y a, c'est que quand j'ai mis le pied sur le bateau, vous avez vu le premier podcast. J'avais fait du bateau dans mon jeune temps avec mes parents, j'ai fait de l'optimisme, j'ai fait du 4-20, j'ai fait de la croisière, mais jamais de la croisière hôturière. Mais j'étais jeune, j'ai jamais vraiment eu un rôle d'équipière. Et surtout, je ne me rendais pas compte que j'allais dans les 40e et les 50e. C'est-à-dire que Buenos Aires et Ushuaia, c'est quand même très très bas. Donc Buenos Aires, c'est encore relativement haut, mais très vite on atteint le 40e parallèle, et on les appelle en mer, on les appelle les 40e rugissants, c'est-à-dire que la mer n'est pas facile. Et les 50e, c'est encore pire, parce que les 50e, il commence à plus y avoir beaucoup de terre, il n'y a plus que la pointe de l'Argentine qui coupe les vagues, et donc les vagues ont le temps de faire le tour de la planète et donc de grossir, grossir, grossir. Et donc c'est les 50e hurlants, c'est le Cap Horn, c'est vraiment un endroit de mer pas facile. Alors si jamais il y a des navigateurs ou hôturiers dans la salle, ils vont trouver que, bon, voilà, ils savent de quoi il s'agit, etc. Mais pour moi, qui n'avais jamais fait de croisière hôturière, j'y suis vraiment allée dans le genre, il faut que je parte, mais en toute inconscience, vraiment en toute inconscience. Donc je suis partie, il faut que je parte. En plus, moi, je suis une artiste, donc quand je pars, j'en fais un film, je partage, etc. Et j'ai mis les pieds sur le bateau, et là, j'ai le mal de mer. Je perdais tous mes pinceaux. Et alors, c'est pas très grave, je suis tête en l'air d'ailleurs, juste avant de venir, j'ai failli oublier mon ordinateur au café. Heureusement, j'étais pas toute seule. Donc, ça va, je l'ai pas perdu. Mais sur un bateau, c'est quelque chose qui peut devenir très, très vite, très embêtant, parce que si vous laissez des objets traîner, le moindre virement de bord, la moindre embardée fait de chaque objet qui traîne un projectile. Donc, tout ce qui est pas grave à terre devient extrêmement dense et puissant en mer. Donc, toutes vos petites fragilités. Ah, c'est pas grave, j'ai oublié d'acheter des oignons, c'est pas très grave. Oui, et ben quand vous partez pour deux semaines de croisière, il y a un moment qui... Il n'y a plus d'oignons ? Comment ça, il n'y a plus d'oignons ? Qui est-ce qui était censé acheter les oignons ? Claire ! Et là, vous vous sentez tout petit, 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 petit. Voilà. Donc, quand vous êtes à terre, c'est pas grave, je retourne au supermarché. Quand vous êtes en mer, tout devient extrêmement, extrêmement prégnant. Et donc, c'est ça que je voudrais retranscrire dans le film. Donc bon, j'ai pas réussi à faire les animations en mer, comme vous pouvez l'imaginer. Sinon, le film, il serait déjà fini. Mais
donc, tu as fait quoi alors ? Tu as fait des croquis, des choses comme
j'ai
ça ?
J'ai fait des dessins.
Des dessins.
Voilà, donc voilà des dessins. Et déjà, en fait, de dessiner dans la gîte, il fallait que je trouve des systèmes pour bloquer mes carnets, pour attacher mes pinceaux. En fait, j'ai pris des... vous savez, les petits élastiques pour les lunettes, pour ne pas perdre ses lunettes. J'utilisais ça, je mettais un bout sur mon petit doigt et un bout sur le pinceau. parce que je dessine, je peins avec plusieurs pinceaux dans la main et donc très facilement je les perds. Et donc j'avais trouvé des systèmes un peu pour tout. Je bloquais mes carnets dans la, ce qu'on appelle la ligne de vie, puisqu'on a un gilet et on s'accroche tout le temps pour ne pas tomber à la mer. Donc je coinçais mes carnets dans la ligne de vie et je coinçais mes pinceaux avec des attaches lunettes. Donc il faut trouver d'autres choses. Et autant personnellement qu'au niveau du dessin, ça met en danger, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres manières. Il faut aller un peu à l'essentiel, d'autres manières de faire, manières de s'adapter.
Mais quand tu pars comme ça sur un voyage aussi long, il se passe tellement de choses, il y a plein de personnages, il y a ton parcours à toi, il y a la mer et tout ça. Comment arriver à déterminer ce qui va faire le cœur du film ?
Mais en fait, c'est justement pour ça que je suis partie pour faire. Déjà, je voulais faire le film en animation au départ, mais en travaillant sur l'écriture du film, je me suis rendu compte que l'animation permet énormément de concision. Parce que justement, on n'a pas le temps. Je fais un film qui va faire 10-12 minutes. En 10-12 minutes, on n'a pas le temps de rencontrer chacun des protagonistes. Quand je suis arrivée à Buenos Aires, on était 10. Il y en a deux qui sont partis à Mar del Plata. On a fait une escale à Mar del Plata. On s'est abrité de la tempête. Il y en a deux qui sont partis parce qu'ils avaient le mal de mer. Enfin, c'était un couple. C'est elle qui avait le mal de mer. Et elle n'arrivait pas à se remettre. Et donc, ça devenait dangereux. Donc, tout ce genre de choses, si je voulais vraiment présenter chacun et avoir le point de vue global, en plus chacun venait chercher quelque chose de différent, c'était un point différent dans la vie de chacun des équipiers, là je devrais faire un long métrage, et c'était pas ça mon propos, c'était vraiment sur la transformation personnelle, toutes ces petites transformations qui peuvent, ces petites réalisations sur soi, sur la vie, qui peuvent mettre 5 ans, 10 ans là qu'on peut vivre en un mois. J'avais envie de parler de ça, et donc c'est pour ça que je l'ai fait en animation. Donc les équipiers, je vais vous montrer un petit peu le personnage.
Puisque tu avais décidé de faire le film dès le départ, avant le voyage, ça supposait qu'effectivement, là, il y allait y avoir un grand bouleversement pendant ce voyage. Ça se trouve, tu aurais pu t'ennuyer terriblement et trouver ça très décevant.
Ah bah, y en
la
en a
matière
un
du film aurait été très
Il y en a qui a trouvé ça terriblement décevant. La traversée de l'Atlantique, il en est sorti, l'interview de la sortie, c'était « Ouais, bon, à part 3-4 dauphins, bon... » Moi, je partais déjà, la façon dont je partais était, je laissais beaucoup de choses derrière moi. Donc j'avais déjà un choix qui était extrêmement, extrêmement fort. Donc je savais forcément que j'allais devoir trouver d'autres choses. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Donc par rapport à ce que tu me racontais sur les équipiers, etc., j'ai raccourci un petit peu, on était assez nombreux, et là, j'ai fait des recherches personnelles où j'ai un petit peu... synthétiser l'équipage. C'est-à-dire que sur l'équipage final, j'ai mis 6 personnes, on était 8. Et simplement, en fait, j'ai condensé des personnages, plusieurs équipiers en un seul. Dans le film, en fait, on va connaître le capitaine Brice, qui est en jaune là, parce que c'est le capitaine du bateau, donc il a un sens, c'est lui qui est responsable du bateau, qui est responsable de la route, qui est responsable de la survie de tout le monde. Jeanne, qui est en bleu, qui est mon amie monteuse, qui m'a emmenée en fait à bord et qui est celle aussi qui m'a un peu pris sous son aile, qui a commencé à m'expliquer au début du voyage. Bon, alors je t'explique. Hein. D'abord, je te connais, il va falloir que tu dormes parce qu'il va falloir que tu prennes ton quart. Quand c'est pas ton quart, c'est pas ton quart. Donc, qui m'a pris un petit peu comme ça sous son aile, qui m'a expliqué un petit peu les règles de fonctionnement de vie sur un bateau, qui sont aussi un peu des règles de vie qui peuvent être applicables à terre. Le côté c'est pas ton quart, c'est-à-dire que t'es pas responsable. Tu te reposes parce que quand tu vas être responsable, il va falloir que tu puisses le faire. Et il en dépend de la survie de tout le monde. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle est devenue un personnage. Et ensuite, je voulais équilibrer, on était exactement moitié homme, moitié femme, ce qui est plutôt rare en mer, c'est quand même un monde relativement masculin. Et donc, dans le film, on est aussi équilibré homme-femme.
Le traitement du film graphiquement, enfin, là, c'est les dessins que tu as fait sur place, dans le bateau ?
Alors, les équipiers, je les ai fait après, puisque ce que j'aurais fait sur place, j'aurais pas à réfléchir à faire des recherches de personnages.
Mais tu restes sur la même approche graphique ?
Je reste sur la même approche graphique, puisque c'est ce qui est sorti des carnets. Donc, j'essayais de rester...
Rester proche du carnet de voyage, quelque part. Ouais.
Exactement. Alors, sur le carnet de voyage, donc, je suis revenue, et je suis revenue avec ma matière vidéo, mes carnets. On a fait tous les carnets, je crois. Hein. Peut-être que je ne vais pas montrer la fin. Voilà, donc ça c'est la Patagonie, c'est ma première navigation sous la neige. Donc évidemment, j'avais des...
Voilà, j'imagine que la contrainte de l'environnement sur un voilier, Il y a des urgences, ça bouge beaucoup, il y a la mer autour, il y a le vent et tout ça. C'est important aussi pour rendre compte de cette expérience. Mm-hmm. Mais ça pose des problèmes en animation. Un travail sur le son, bien sûr, important, mais aussi sur l'image.
Oui, alors sur l'animation, c'est vrai que le son, ça va être la partie, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup d'audio, ça va être la partie documentaire, parce que le vent, l'ambiance, nous on a eu beaucoup de musique aussi, donc toute cette ambiance à bord, elle va être extrêmement portée par le son, et c'est ça qui va faire le côté documentaire du projet. Le son est tellement puissant et évocateur que ça me donne une grande liberté à l'image, et à l'image, je peux simplifier. J'ai simplifié déjà au niveau écriture, au niveau des équipiers, mais j'ai simplifié aussi au niveau visuel, puisqu'en dessin, on peut choisir ce qu'on dessine. Puis après, surtout quand je suis rentrée, j'étais en résidence à la Maison des Auteurs, Angoulême, et je me suis beaucoup amusée à faire de la recherche, puisque j'étais à terre et que j'avais du temps, j'en ai profité, et j'ai essayé pas mal de graphismes différents pour finalement, je vais vous montrer quelques-unes des recherches, pour finalement revenir à ce que j'avais, plutôt à ce que j'avais fait à bord, en fait.
C'est assez détaché d'un réalisme.
Oui, parce que justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui m'intéresse de montrer, c'est plutôt les sentiments intérieurs, ce qu'on vit. Et donc, je me détache d'un réalisme. Par contre, j'ai quand même un vrai réalisme dans le sens où je vais faire quand même aussi pas mal de rotoscopes. Donc là, je vous montre un petit peu le système, c'est-à-dire que j'utilise des plans vidéo qui ont été faits en mer pour retrouver un peu comment le bateau bouge, comment la mer bouge. Donc je vais faire les éléments différents, et en fait j'utilise le tracking pour remettre les éléments comme ça. Et alors c'est très drôle parce que je montrais ça lors d'une exposition, et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant: tu sais Claire, tes plans ils bougent tout le temps, je vais te montrer un truc hein. Dans After Effects il y a un stabilisateur, c'est très très bien. Moi je m'étais cassée pour retranscrire exactement ce qu'on voit à bord, ce qu'on retranscrit, avoir un petit peu le mal de mer avec tout qui bouge, rien qui est vraiment stable les uns par rapport aux autres, et il n'avait pas vraiment compris le principe, ce jeune homme. Donc voilà, ça c'est le principe, pour vous montrer le principe du rotoscope. Et puis je vous montrerai vite fait quelques
tests. La partie évocation de la mer doit être réaliste, elle. Donc les mouvements, l'instabilité et tout ça.
Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est des premiers tests de vie en mer. Et puis, j'ai essayé de travailler un petit peu en numérique pour accélérer aussi un petit peu le processus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du rotoscope, mais que j'utilise en utilisant parfois un personnage pour un autre, pour pouvoir avoir un montage qui est concis. Et vu que les plans n'ont pas été tournés spécifiquement pour ce que j'étais en train de faire, je les utilise, en fait, je les dévoie quelque part. Un monteur ne pourrait pas faire un montage raccord avec ça.
Alors en fait, c'est un journal intime ou c'est un documentaire ?
Ça évite les genres, hein, si je peux me permettre. C'est, en même temps, c'est documentaire au niveau du son, ça pourrait être un documentaire radio si on veut, mais le principe du film, c'est un journal intime, c'est vraiment quelque chose, c'est un carnet de bord, c'est un carnet de voyage, et en plus c'est un film d'animation, donc ça croise un peu les genres, et c'est ça qui fait la particularité de ce projet. C'est du test. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Il y aura sûrement un travail sonore très important à faire.
Oui, hein. Oui, on va bien s'amuser là-dessus. J'ai déjà une ingénieure du son qui travaille dessus, qui a été refaire des prises de son quand elle est partie en bateau en Écosse, à partir des documents que je lui avais donnés, pour qu'on puisse reconstruire le tout, puisque dans les bandes son, là, les voix sont absolument pas audibles, donc il va falloir reconstruire. Mais c'est ça le principe du film, on reconstruit une réalité pour la rendre plus vraie que le vrai.
Très bien, merci Claire. On va laisser la place à Jeanne et Cécile. Puis Claire reviendra tout à l'heure, bien sûr. Donc le COD et le coquelicot. Déjà, le titre est intriguant. Alors, qui se lance ? Cécile.
Ok, je me lance.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Le COD et le coquelicot.
Alors, nous, c'est un projet qu'on a commencé il y a 5 ans, ensemble avec Jeanne. Parce qu'on travaillait dans la même école à l'époque, une école primaire, dans laquelle moi j'enseigne et Jeanne était animatrice. Donc on travaillait toutes les deux avec les mêmes enfants à des moments différents de la journée. Et on est devenus assez proche de l'équipe d'instituteurs de l'école avec qui on s'entendait bien et surtout on partageait un peu les mêmes problèmes de gestion d'enfants difficiles, parce que c'était une école qui n'était pas facile. Et voilà, et nous on avait envie de faire un film ensemble parce qu'on en avait déjà fait un, on avait envie d'en refaire un et ça a mis un peu de temps, mais on a fait un film qui parlait de notre expérience dans cette école, enfin de l'expérience de 5 mètres dans cette école-là, mais une expérience qu'on connaissait un petit peu nous aussi.
Voilà.
Supportrice.
Donc en 5 ans, on a mis beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'on voulait dire vraiment dans ce film et quelle forme il allait prendre. Et on est parti d'interviews qu'on a fait des 5 instituteurs. Mais avant ça, on avait fait aussi des interviews d'enfants. Enfin, on était parti dans plein de directions différentes. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Et à partir des interviews qu'on a fait des enseignants qui nous racontaient leur expérience dans cette école, on a construit un petit montage son, comme disait Claire, comme une petite émission de radio. Et c'est ce qui nous a permis de savoir un peu mieux ce qu'on voulait raconter. Et c'est à partir de ça qu'on a construit la trame du film.
Comment ça, non? On peut peut-être avoir des images.
Oui, tout à fait.
Alors, donc du coup, vous réunissez énormément d'éléments sonores, d'interviews et tout ça. Et comment le sujet s'est dessiné au bout du compte? C'est vraiment sur le montage son, apparemment, si je comprends bien, que vous avez réussi à déterminer la trame narrative. Mais c'est vrai qu'a priori, la matière est énorme. Donc, comment vous avez réussi à déterminer votre angle d'attaque?
Eh bien, donc oui, je pense que c'est là notre faiblesse, c'est l'écriture.
Alors bon.
Donc on avait besoin d'être dans la matière, donc c'est pour ça qu'on a fait des enregistrements donc, qui ont duré quasiment une année, même on en a refait après, donc voilà. Et ben, on a fait des thèmes, on a fait des choix, enfin, et donc c'est vraiment par le montage son qu'on a fait un peu, voilà, avec du temps, et je ne sais pas, au fur et à mesure, on avait l'impression que du coup, il fallait qu'on dise des choses du contexte, puis finalement, je sais pas, c'est en étant dedans, en tout cas.
Je suis pas sûr que ce soit une faiblesse d'écriture. Vous avez fait un peu comme moi, j'étais formé comme anthropologue, donc vous avez fait un peu une ethnographie du lieu, puis vous avez essayé de comprendre les enjeux, et de là, vous en avez tiré quelque chose, non? C'est pas ça?
Si, c'est ça. Et puis, probablement qu'effectivement, en étant dedans, c'est-à-dire que, donc, comme on y travaillait toutes les deux, et comme on avait des questions qui étaient proches de celles des enseignants, ou en tout cas, qui parfois se recoupaient, c'est sûr que, par exemple, le fait de prendre la décision de se dire « bon, nous, notre film, il est vraiment axé sur les enseignants », parce que c'était les questions qu'on se posait aussi, ça s'est fait assez vite après, de façon assez naturelle, quoi. Un film sur les enfants de cette école, probablement, d'un point de vue plus des enfants, probablement que... voilà, c'est un autre film, en tout cas. Donc oui, ça s'est fait, voilà, comme ça.
Ok.
Alors les extraits, donc en fait le film, voilà, en fait on vient de le terminer cette semaine, presque, et donc on a choisi des extraits qui étaient sans le montage son qu'on a fait, donc plus brut au niveau du son on va dire, et on a fait le choix de montrer des extraits assez différents en style graphique, parce que voilà, une des particularités de ce film, c'est qu'il y a différentes choses, et donc, ouais, mais on commence pas par le... Ah non, ça c'est les images, pardon. Vas-y.
Non, on veut montrer les extraits. Non. En fait, on a aussi ramené des images pour vous montrer un peu la diversité des styles graphiques qu'on a choisis, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Donc voilà, des choses abstraites. On mélange là, dans cette image-là, on mélange de l'animation en peinture, en papier découpé, et puis les visages des personnages, c'est de la photo. Là, c'est pareil. Ça, c'est que du papier découpé. Là, il y a encore de la peinture. On a filmé des vidéos à l'école dont on s'est servi pour réaliser des scènes comme celle-là qui sont assez proches du réel. Et on avait aussi la problématique de la représentation des enfants, parce qu'il fallait pas qu'on reconnaisse les enfants de l'école. Donc on les a filmés, puis on a dessiné à partir de ces vidéos. Voilà. l'impression au début.
Alors, contrairement au film de Claire, on n'a pas d'unité graphique, même s'il y a une gamme assez large dans ce qu'a montré Claire, mais j'ai l'impression que vous partez sur des pistes très très différentes. Donc j'imagine que ça correspond à des traitements aussi différents.
Ouais, en fait, au départ, nous, notre idée de départ, c'était qu'on voulait faire ce film. Déjà, on en avait marre de faire que des films en dessin. On voulait faire du papier découpé parce qu'on croyait que c'était plus rapide. En fait, c'est pas plus rapide, mais c'est quand même pas mal. C'est sympa. Et notre idée, c'était pour rester dans un univers scolaire, c'était d'utiliser des éléments de papier découpé qu'on aurait récupérés dans des manuels scolaires et des éléments qui font penser à l'école. Donc au début, on est parti de ça. On a récupéré, moi, dans l'école, justement, ils jetaient plein de vieux manuels que les enfants n'utilisent plus. Et on en a récupéré plein. On a essayé de chercher de la matière là-dedans, de voir ce qui nous intéressait le plus, ce qui pouvait fonctionner. Et à plein de moments, on s'est posé des questions. Est-ce que ce serait suffisant sur une durée de film d'animation assez longue? Est-ce que ce serait suffisant de rester toujours dans la même technique? Et puis nous, on s'est rendu compte qu'on avait besoin aussi de la liberté de la peinture et du dessin. On s'est rendu compte aussi que les maîtres, les 5 instituteurs qu'au début on pensait représenter par des images qui pouvaient changer tout le temps. On avait besoin que ce soit des gens qui leur ressemblent. Donc voilà, au fur et à mesure, ça a évolué et du coup, il y a plein de choses différentes.
Ok, on va peut-être voir des séquences qui bougent alors pour se rendre compte. Ouais.
Bah alors, c'était le troisième jeudi. J'avais hyper bien préparé ma classe. C'est quand même nettement mieux passé. Et puis, au bout de 3 mois, ça fonctionnait. Mais c'est pas tout seul que je l'ai fait. C'est avec l'aide de tout le monde.
On voit qu'il y a, deux registres. Il y a un registre où vous illustrez les propos de l'enseignant avec un côté assez ludique. Puis il y a un registre qui est beaucoup plus intime où vous allez vers l'abstraction et là où vous utilisez la peinture en fait. C'est ça, c'est l'idée.
Ouais. En fait, c'est vrai, on est beaucoup dans l'intuition et donc on essaye des choses. Donc en fait, comment on a fabriqué une fois qu'on avait ce montage son qui était presque définitif, enfin qui était une bonne base de notre travail. En tout cas, on a fait des recherches, donc on prenait chacune un plan ou un séquence, on se disait tiens, moi je sens bien ça là-dessus. Donc on a fait un espèce de patchwork d'essais, et après on a gardé des styles et après on a fait des liens, on a vraiment construit. Mais et donc de ce patchwork, parfois on avait vraiment envie d'illustrer un peu de façon ou abstraite ou métaphoriquement des séquences qu'on avait en tête. Et puis parfois on avait besoin aussi d'être. On avait des idées assez illustratives, comme parfois il y a des éléments assez comme ça, assez parlants, de les faire comme ça de façon un peu plus illustrative. Et puis parfois, pour les besoins du film et de la compréhension, on avait besoin vraiment de rajouter des éléments qui sont, enfin, des scènes qui sont plus réalistes, on va dire. Donc il y a plusieurs. On va vous en montrer d'autres. Il y a encore des choses assez différentes. Là, celui-là, c'est quelque chose d'assez abstrait aussi, qui est assez évocateur, je pense.
Juste une autre question sur la première séquence qu'on a vue. Ce qu'il raconte est assez terrifiant, quand même. Mais en fait, le ton que vous adoptez dans votre commentaire en animation est plutôt distancié et apporte plutôt de l'humour. Voilà. Et comment trouver le ton juste par rapport à ça? Question difficile, ouais. D'accord.
Ouais, c'est dans la continuité. Non, mais il y a eu plein d'étapes. Il y a eu par exemple une étape du film où on l'a fait visionner à la productrice et puis aussi à des gens parce qu'on avait besoin d'avis. Où les retours étaient que c'était un film très sombre qui décrivait un état complètement déprimant du métier d'enseignant.
Il est déprimé.
Et qu'il n'y avait vraiment pas vraiment de porte de sortie. Nous, c'est pas ce qu'on voulait dire. Donc on s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait, au niveau du montage, au niveau des images, réinjecter un peu de positif. Parce que ce qu'on voulait montrer, et on espère que le film y montre ça, c'était un équilibre toujours un petit peu précaire entre les choses qui fonctionnent et la motivation de ses maîtres. Et en même temps, les difficultés et le fait que chaque journée est potentiellement très difficile. Donc ça s'est équilibré au fur et à mesure comme ça.
D'accord.
Ouais, mais après, sur le décalage des images et du ton, je pense que ça, on aurait bien aimé faire un film drôle. Donc parfois, on essaie de se rattraper. Enfin bon, voilà, aussi parce qu'on s'amusait de ça, hein, parce que ces maîtres aussi sont très drôles. Et voilà, il y a quand même quelque chose aussi de léger dans ce ton grave parfois. Donc voilà, je pense que.
Oui, il y a de l'humour dans son propos aussi, malgré tout.
Je pense que c'est par les contenus d'apprentissage qu'on arrive à les accrocher.
Ensuite, on voulait vous montrer un extrait d'une séquence qu'on a filmée en classe. Et donc, voilà, et qui a un ton assez, du coup, qui sonne un peu réaliste, quoi, ou réel, ou voilà. Mais c'est du papier découpé. Mais qui, du coup, est un peu différent, c'est une scène.
Alors, j'ai tous les sujets. Alors, à quelle grande période de l'histoire appartient le 18e?
D'arrêter, de taper, ou de pas y aller, en vrai, ça marche absolument pas.
C'est vrai qu'en choisissant les extraits, je crois qu'on a plus pensé des tout petits extraits, et puis aussi en termes de style graphique. Donc voilà, bon, il n'y a pas trop la narration hein, là-dedans. Mais...
Oui, vous allez à des choses qui sont... Là, on est tout proche de l'abstraction, là, où c'est les mouvements avant tout qui sont mis en avant, à des choses où on a quand même l'utilisation de visage, papier découpé, on en est beaucoup plus proche du quotidien dans ces moments-là. Vous avez beaucoup cherché d'un point de vue graphique une fois que vous avez eu la trame sonore, et comment vous le faites? Vous le faites ensemble, chacune de votre côté?
Un peu les deux en fait. On le fait. D'abord, comme disait Jeanne tout à l'heure, l'une ou l'autre sent bien une séquence, donc elle commence à faire des petites recherches dessus. Dès qu'on sent que ça commence à prendre forme, on se montre. Enfin, de toute façon, on se montrait les trucs un peu tout le temps. Mais. Voilà, et puis après on en discute et ça, c'est à deux que ça prend la forme finale en fait. Même si l'idée au début est de l'une, il va y avoir les influences de la séquence d'avant, de la séquence d'après. Au début on partait un peu plus dans tous les sens, et puis au fur et à mesure que l'animatique avançait, il fallait quand même qu'il y ait une cohérence globale. Donc on harmonisait un peu à partir de ça.
Quand on a un couple de réalisateurs, il y a souvent certains qui, il y a souvent une répartition du travail, on va dire, même s'il y a un travail commun. On a l'impression que vous faites un peu tout ensemble, non? C'est une idée ou
C'est moi la chef. Non, oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, ça se passe assez comme ça. En fait, assez naturellement, et parce qu'on en discute, et parce qu'on connaît assez bien comment on fonctionne, et les goûts qu'on a, enfin, je sais pas, ça se passe. On fait tout, en fait, toutes les phases, l'une et l'autre.
Après, il y a sans doute des étapes où il y en a une qui est peut-être plus à l'aise que l'autre pour des trucs très précis. Mais déjà, ça se passe naturellement. Et puis, je sais pas, même si il y a certains domaines où il y en a une qui va peut-être être plus à l'aise que l'autre. L'autre est quand même très présente dans l'étape en question. Donc on ne pourrait même pas le dire, je pense.
Très bien.
Même parfois, nous-mêmes, on ne sait plus
qui a fait quoi. Qui a eu l'idée de quoi.
À la fin.
C'est pour ça que vous revenez à faire des films ensemble à chaque fois.
C'est plus facile. Hein. Enfin, pour nous, c'est plus facile. Après, voilà.
Très bien, merci. Et on va passer au dernier projet. Alors, Young Perez, c'est pas un court-métrage, mais c'est un long-métrage. Alors, il est ni au tout début, ni presque terminé. Il est entamé, on va dire.
Oui, non, il est en tout début de fabrication sur le pilote, hein, sur 4-5 minutes. Donc on est à 3 semaines réellement de travail. Ce qu'on avait envie de vous montrer, en fait, c'est justement le travail en cours, c'est-à-dire la manière dont on travaille. On avait très envie de d'abord vous raconter quand même l'histoire, parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas. cette histoire. Et on va vous montrer des images fixes pour ça, c'est-à-dire l'univers graphique, hein, notre univers graphique, mais l'univers graphique créé par, par Franck. Et puis ensuite, on vous montrera la manière dont on travaille pour la fabrication de ces 5 minutes. Alors vous verrez qu'il y a des... Enfin, je vous le dirai. C'est assez, je crois, un peu amusant.
Alors le titre, c'est Young Perez ou c'est à point fermé ou c'est les deux ?
C'est les deux.
D'accord.
C'est les deux. Bon, alors, Young Perez s'appelait en fait Victor Yonki. C'est un petit Tunisien qui est né à La Hara en 1911. La Hara, c'est le quartier juif de Tunis. Et bon, il faut imaginer un espèce de petit banlieusard d'aujourd'hui, hein, un gamin qu'on n'arrive absolument pas à tenir et qui a eu la chance de rencontrer un entraîneur de boxe qui l'a repéré, qui l'a très vite entraîné à la boxe parce qu'il s'est aperçu que ce gamin était très très rapide. Il mesure, adulte, il mesurait 1m50. Donc il l'entraîne à la boxe. Il gagne très vite des combats en Afrique du Nord. Et à 16 ans, il quitte clandestinement la Tunisie pour la France. Là, on voit d'ailleurs des images, on voit sa mère, on le voit lui, on le voit dans le bateau. Et on voit surtout une petite fille qui était très amoureuse de lui et dont il était très amoureux, qui s'appelle Monette. Et qui nous racontera, qui nous racontera l'histoire de Perez, hein, dans le long métrage. Donc c'est une narratrice, Monette. Hein. Bon, à Paris, c'est un peu compliqué. Il retrouve son frère, quand même, qui était installé à Paris, lui aussi, comme sparring partner. Et il est repéré par un monsieur qui s'appelle Bélier ou Bélière, ça dépend. Ça dépend de qui l'appelait. Qui le repère aussi comme étant très rapide, qui le prend sous son coude, qui l'installe, qui le finance un petit peu et qui l'amène au championnat de France. Alors là, c'est très marrant parce qu'en fait, il est tunisien, mais il devient champion de France. Vous voyez le truc. Stop. Ouais, mais je peux accélérer. Donc il est tunisien, mais il devient champion de France. Il avait des problèmes en étant tunisien sur le territoire français, et puis du jour au lendemain, ben évidemment, il n'a plus de problème. Hein. Et puis, il devient champion d'Europe. Et puis, en 1931, il gagne le championnat du monde, il devient champion du monde, et là, il a 20 ans. C'est donc encore, à l'heure d'aujourd'hui, le plus jeune champion du monde de boxe, de l'histoire de la boxe. Là-dessus, il tombe amoureux, et on peut relancer, parce qu'il y a la belle Mireille Balin qui débarque.
Okay, star du cinéma français des années 30 et 40.
Voilà, superstar hein, quand même. Gabin, c'est Pépé le Moko, c'est l'autre Gueule d'amour. Gueule d'amour. Bon, il faut s'imaginer que là, à 20 ans, aujourd'hui, c'est Zidane. Enfin, il faut bien s'imaginer que la boxe à l'époque, c'est le foot aujourd'hui. Ce type, c'est Zidane, c'est-à-dire qu'il a tout Paris à ses pieds. Balin, qui est une jeune mannequin qui rêve de devenir comédienne, évidemment tombe sous le charme. Elle est éventuellement tombée amoureuse de lui, d'ailleurs aussi, hein, c'est possible. Mais elle va profiter de sa notoriété pour rencontrer beaucoup de beaux mondes, dont d'ailleurs dont Gabin, dont Tino Rossi, dont elle a été la maîtresse aussi, enfin, etc. Je crois que Luis Mariano aussi. Bon, bref. Donc, il a une histoire d'amour complètement folle avec cette femme. Et puis, on va faire une toute petite pause. Et puis, évidemment, il commence à passer des nuits blanches, des nuits de fête. Il se fait construire une maison au bord de la Marne. Il reçoit beaucoup de monde. Il dépense tout son argent. Enfin, imaginez-vous quand même un type qui sort de mais vraiment un bidonville. Je ne sais pas s'il savait lire ou écrire. Hein. Moi, j'en sais rien. Et qui se retrouve adulé par le tout Paris en 1930. Peugeot, à l'époque, lui offre une voiture décapotable. Enfin, bon, c'est l'hystérie. Toutes les femmes sont à ses pieds, mais lui, il craque pour Balin. Et il craque tellement que, alors c'est les voyages à Deauville, c'est le casino, c'est tout ça. Évidemment, il se met à perdre ses matchs et il perd son titre très vite. Un an plus tard, il perd son titre, il n'est plus en forme. Et alors, à partir de là, c'est une espèce de descente, évidemment. Alors, il va faire beaucoup de matchs d'exhibition, il va encore gagner beaucoup d'argent, qu'il va mal placer, il va être très mal conseillé. Et puis, il se retrouve dans une situation un peu dramatique. Balin est parti aux États-Unis avec Tino Rossi. Elle revient, elle tourne, elle commence à... On voit sa tête sur les grands boulevards. Hein. Et puis lui, il se casse la figure, quoi, tout doucement. Il perd son argent, il perd les matchs, etc. Et il accepte un match en... Alors là, c'est complètement hallucinant. Il accepte un match en novembre 38 à Berlin. Le jour où a démarré le grand pogrom, le fameux grand pogrom de 38 en Allemagne, hein, qui en fait durera 3 nuits, et qu'on nous suggère sérieusement de ne plus appeler la nuit de Cristal, parce que Kristallnacht, c'est le mot que donnaient les Allemands à cette nuit-là. Donc je pense qu'il est plus raisonnable d'appeler ça un pogrom. Il fait un match contre un Allemand à ce moment-là. Heureusement, les Allemands ne savent pas qu'il est juif. Il le laisse repartir. Il perd. Hein, il le laisse repartir. Son frère lui demande de rentrer avec lui en Tunisie. Là, on voit la maison qui s'est construite, hein, au bord de la Marne. Son frère lui demande de rentrer en Tunisie. Il refuse. Il ne veut pas rentrer humilié. Il reste à Paris. Entre-temps, Balin est tombé amoureuse d'un officier autrichien. Pérez est dénoncé en tant que juif. Il est arrêté en 1943. Il est interné à Drancy. Là, je pense que les images se passent de commentaires. Il est interné à Drancy avant de partir pour Auschwitz, où il est repéré comme étant un ex-champion du monde, où il va devoir s'entraîner et combattre contre des Allemands, évidemment, de catégorie poids lourd, etc. Bien nourri, alors que lui ne l'était pas. Mais enfin, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y avait effectivement une salle d'entraînement, une salle de sport à Birkenau, en fait. Et donc, il a combattu là en Allemagne. Enfin, bon, ensuite, il a beaucoup aidé ses amis parce qu'il a pu travailler à la cuisine. Donc, il est arrivé à récupérer un peu de soupe. Il a été puni pour ça. Et puis, il est assassiné. Au cours des marches de la mort, c'est-à-dire au moment où les Allemands évacuent les camps devant la poussée soviétique en 1945. Le chant qu'on voit en bas, c'est le chant que découvre Monette. Donc dans les années 50, lorsqu'elle refait le parcours de Pérez, qu'elle retrouve l'endroit où il a été assassiné, qui aujourd'hui, en tout cas en 50, est un chant avec des coquelicots et a peut-être un peu oublié ce qui s'y est passé. Je parle du chant.
On va vous laisser voir quelques bricoles.
Juste une question avant. Comment est reconstitué le récit? Quel témoignage il y a par rapport à ça? Sur quoi vous êtes basé?
Il y a énormément de témoignages, y compris des... Alors, il y a des témoignages, il y a des gens qui ont fait des...
Action.
Il y a des gens qui ont fait des biographies. Romancé, plus ou moins romancé. Par exemple, il y a un truc très rigolo, c'est qu'ils ne se mettent pas d'accord. Évidemment, vous imaginez la situation, c'est-à-dire des dizaines de milliers de déportés en train de marcher entre Auschwitz et Gliwice, qui est un petit bled en Pologne, avec des Allemands qui ont ordre de les tuer s'ils ralentissent, etc. Et alors, en fait, moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de la date de sa mort. Je ne sais pas si c'est le 21, le 22 ou le 23 janvier. Donc, il y a énormément de documents. Alors, il y a beaucoup de documents sur lui en tant que... Donc, jusqu'en 30... à partir des années 29, 31, champion du monde. Là, il y a beaucoup de documents. Hein. Il y a des textes. Y compris, d'ailleurs, les listings des fédérations de boxe. Hein, il a une plaque au centre d'entraînement en France. Il a une plaque en Tunisie. Bon, là, il y a beaucoup de documents. Après, il y a eu des témoignages d'amis qui ont envoyé des lettres à son frère qui était en Tunisie pendant la guerre, qui ont dit ce qu'il devenait. Ça, on en a retrouvé. Et il y a aussi des témoignages de la fille de Bélier, qui était donc son manager, qui a tout fait pour qu'il parte. Et lui a refusé de partir. Il a refusé de partir parce qu'il ne voulait pas rentrer perdant, sans un rond et plus champion du monde au pays, hein, clairement. C'est ce que, je vais juste rajouter une toute petite chose avant qu'on voit comment on travaille, effectivement. C'est vraiment un film, et je pense que Franck ne me contredira pas, sur l'aveuglement. Hein. C'est ça la vraie question. Ce n'est pas un film sur le nazisme, ce n'est pas un film, ça va. Hein, Monsieur Lanzmann a fait la somme. C'est un film sur l'aveuglement, c'est-à-dire que ce qui est très troublant chez ce personnage de Pérez, c'est qu'il est champion du monde, il est entouré par des gens qui voient ce qui se passe, qui le mettent en garde, et il ne veut pas rentrer au pays sans un rond et sans être champion. Et il est persuadé qu'il va pouvoir passer à travers cette grande catastrophe. Évidemment, il ne réussira pas.
Très bien. Donc, on voit des images de la fabrication du pilote. Donc, vous avez choisi l'option capture de mouvement.
Oui, on a choisi l'option motion capture. On en parle peut-être après. Mmh. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allons-y. On va vous montrer un montage. D'ailleurs, merci à Justin de son petit coup de main. Mais on va vous montrer un montage, comment on pourrait dire. Un bricolage ?
Oh, c'est un bricolage. Dans un premier temps, alors moi je voudrais souligner une chose, c'est qu'on n'a pas eu le temps, et ça on s'en excuse, et on s'en excuse auprès de l'ingénieur du son qui est là, de monter le vrai son direct. Donc c'est un son témoin que vous allez entendre qui est pas très beau, mais bon, on a dû faire ça très très vite et malheureusement on n'a pas pu monter le direct. Donc dans un premier temps, il y a une séquence en capture de mouvement.
Bon, on y va, on verra, on en parlera après.
Box.
Moi, a priori, en tant que producteur, je reçois un projet comme ça. Je vois le traitement graphique. J'imagine les scènes de boxe à animer, les scènes de fou et tout. Je me dis, ils sont fous. Alors, comment vous arrivez à résoudre ça? On a quelques éléments de réponse, là.
Bah, je crois qu'on a un producteur fou, déjà.
Qui est là. Hein.
Qui est là. Enfin, on a deux producteurs
déjà,
fous.
C'est un bon début pour
ouais,
commencer quelque
que
chose.
Ça commence un peu comme ça, et c'est bien. Donc, on va peut-être parler un peu du choix technique. Donc sur pourquoi la motion capture? Parce que c'est vrai qu'en animation, c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est un tabou. Parler de motion capture, en règle générale, c'est se faire poignarder à la sortie du couloir. Quoi. Donc... alors il y a des enjeux qui sont pour nous très importants, c'est de faire avant tout un film, et il se trouve que c'est un film d'animation, mais notre priorité c'est déjà de faire un film. Donc il y a des acteurs, ça Jean-Jacques je pense que tu en parleras peut-être un peu plus. Tu veux parler peut-être de ça déjà?
Oui, non, juste parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps. Effectivement, moi je viens de la prise de vue réelle et je... Et c'est vrai que ça m'a rassuré quand on s'est mis à penser. Moi, j'ai pensé très tôt hein, à la capture de mouvement. Franco était d'accord tout de suite pour deux raisons. D'abord, parce que ça me permettait et ça nous permettait de travailler avec des acteurs, avec des vrais gens. Et il se trouve qu'on aime les vrais gens et qu'on aime les acteurs et que j'aime beaucoup les acteurs. Ça nous a permis de rencontrer un champion d'Europe de boxe qui est présent dans la salle, qui est Nordin Oubali et qui est le petit bonhomme bleu qui gagne le match avec juste des petits points, mais après il aura une tête.
On la montrera tout à l'heure.
Et surtout, j'ai immédiatement, évidemment, pensé au match de boxe. Je me suis dit, mais attends, en animation, j'arrive même pas à les imaginer, les matchs de boxe. Ou alors on est encore plus expérimentaux que ça. Alors là, allons-y. Donc voilà pourquoi c'est présence des acteurs et la boxe et la nécessité de retrouver ces images de boxe qu'on a malgré tout en tête, parce qu'on a tous consommé beaucoup de films de boxe un jour, y compris Rocky.
Alors quelque chose aussi qui était intéressant sur la motion capture, c'est, sans être trop technique, c'est que ça nous permettait d'accéder à un logiciel qui s'appelle Motion Builder, qui est un logiciel qui permet de travailler la scène à 360 degrés, et donc d'une certaine façon de pouvoir vraiment placer les caméras sans tomber dans la rigidité d'un storyboard qui à un moment donné peut totalement figer la mise en scène. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous a montré cette petite séquence avec la voiture, ça fait partie des jeux qu'on peut avoir Jean-Jacques et moi le soir.
Il y en a d'autres.
Ouais. On s'est bien amusé, on a fait la falaise. Vous avez peut-être vu à un moment donné une image intention avec une falaise et des voitures. Donc en fait, cette scène que vous venez de voir en fait, est une scène qu'on trouvera dans le pilote. Et donc on voulait un mouvement de caméra extrêmement particulier et qui est quasiment ingérable en storyboard, mais que l'on pouvait expérimenter véritablement en live. Et ce qui nous permettait donc d'avoir en fait une espèce de souplesse dans l'approche de la mise en scène, pouvoir faire des choses qui n'étaient pas forcément possibles autrement.
Ça, là vraiment je voudrais être précis là-dessus, parce qu'on s'est vraiment heurté avec le studio à ce problème de storyboard. C'est-à-dire que on passait notre temps à leur expliquer ce mouvement de caméra qui au cinéma est assez simple à comprendre. Partez en hélico, vous finissez. J'ai pas dit qu'il était simple à faire, mais il est simple à comprendre. Et on s'est aperçu très vite qu'ils ne comprenaient pas ce mouvement. On s'en est aperçu très vite parce qu'ils nous ont montré des essais qui étaient dans l'autre sens. Enfin, la bagnole venait de face. Enfin, bon, je veux dire, je sais même pas d'où ça sortait. Donc, je me suis un petit peu énervé à ce moment-là.
C'était bien, j'étais très énervé.
Ouais. Et on s'est dit, comme j'adore les voitures miniatures, on l'a filmé, quoi. Alors, évidemment, c'est un peu étrange de vous montrer ça aujourd'hui. Cela dit, c'est vrai que notre storyboard est travaillé comme ça. On en a plein comme ça, mais on vous fait cadeau. Hein. Mm.
Sur l'aspect purement graphique, c'est vrai que ça semble assez compliqué. Un gros travail de rendu, de travail sur le... Vous auriez pu choisir plus simple, quoi.
Alors, sur l'aspect graphique...
C'est très beau, mais...
Je regarde mes producteurs pour voir s'ils sont en train de s'effondrer ou pas. Mais sur l'aspect graphique, en fait, là, il y a des enjeux théoriques pour moi qui étaient vraiment essentiels. C'est vrai que Alors, c'est un avis personnel. Je crois que Jean-Jacques le partage à peu près. Je ne sais pas si tu es d'accord, on verra.
Je ne sais pas, mais oui.
Mais j'ai beaucoup de mal à supporter cette idée que les personnages soient collés dans des décors. C'est souvent le cas de l'animation. C'est-à-dire que les personnages, on ne vit pas au milieu de post-it, quoi. Les personnages font partie de l'image. Une image, c'est une image, c'est quelque chose qui est plein et complet. Et ce n'est pas des choses qui sont composites, remontées en bloc. Et c'est bien souvent le problème de l'animation. Et c'était totalement insupportable pour moi, parce que l'idée pour moi est de faire des images et pas de faire, pas de faire des choses qui bougent dans des images. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des formes qui communiquent avec les arrière-plans. Dans une logique qu'on pourrait appeler, en toute modestie, entre guillemets, picturale. C'est-à-dire travailler de manière globale, en fait, l'image et le rendu. Et on ne souhaitait pas du tout que les formes soient finies et définies. C'est-à-dire cette espèce de tic, en fait, habituel, post-disneyen, insupportable. L'idée, c'était vraiment d'avoir, effectivement, des principes de liaison entre les formes, d'où, effectivement, ces traits, en fait, qui se mettent à communiquer avec les arrière-plans. Donc après, le studio se débrouille, hein. Mais ils n'aiment pas trop, je crois. Mais c'était un peu l'idée, quoi.
Par rapport aux images qu'on a vues, on reste vraiment sur ça, graphiquement, dans le pilote. Ou est-ce que le passage par la motion capture a changé des choses ?
A priori, non.
Non.
A priori, non. Okay. En tous les cas, on va dans ce sens-là.
Vous avez des éléments à nous montrer de ce point de vue-là, décors ou des personnages terminés une fois la...
On peut vous montrer un petit peu de design caractère, parce que je pense que Nordine sera peut-être d'ailleurs content de voir son visage.
De se voir comment il sera dans le film.
Ce qui était intéressant aussi avec la motion capture, c'est que... on a pris beaucoup de choses sur la motion capture. C'est que, en règle générale, les animateurs disent toujours que la motion capture, c'est mou. Mais en fait, on s'est rendu compte de plein de choses. C'est qu'en règle générale, justement, les réalisateurs ne respectent pas les proportions des personnages et les stretchs, ce qui fait que les animations sont très molles. Donc nous, on écoute et on est vraiment très respectueux en fait, du travail de captation qui est fait par entre autres, ces mocap labs, donc par Rémi Brun. La deuxième chose qui est extrêmement passionnante, je trouve, dans le travail de motion capture, c'est qu'on se rend compte en fait, que le mouvement est quelque chose de très impressionniste, c'est-à-dire que quelques points permettent de résumer un mouvement, ce qui nous semble être d'une certaine façon peut-être moins... il y a moins l'effet de travail au point de croix de l'animation traditionnelle, mais en même temps, il y a une espèce de sensation du mouvement qui est totalement étonnante. On a vu effectivement, par exemple, la reproduction d'un cheval en mouvement qui est synthétisée par une dizaine de points et qui nous donne une sensation de mouvement absolument incroyable. Donc voilà, donc ça c'est Dominique Fro, en fait, qui joue la mère de Pérez.
Une chose qui est souvent difficile à traiter en matière de capture de mouvement, c'est l'expressivité des regards.
Oui. Alors on fait de l'animation faciale, c'est-à-dire que on a, je crois, une soixantaine de points en fait qui sont posés sur les visages et qui permettent d'avoir quelque chose de très très fin. L'idée aussi, c'est qu'en fait, pour aller dans le sens de cette animation impressionniste qui est liée justement au fait que les points ne couvre pas l'intégralité du visage, mais sont que sur quelques endroits. le rendu graphique, qui est un rendu qui n'est pas un rendu cloisonné, mais qui est un rendu en débord, permet en fait, par contamination, de pouvoir faire des liaisons entre à la fois le manque d'information qui est lié au point et le manque d'information qui est lié au fait que la forme est décloisonnée. Donc on obtient en fait un rendu que je pourrais qualifier d'impressionniste, au sens où effectivement les formes sont en contamination, l'animation et les formes sont en contamination. Bon, ça c'est des décors en fait. Ah. Bon, ça c'est le décor. Donc ça c'est un décor de scène de la première scène en fait d'exposition du pilote. Tunis. Voilà Nordine. Alors là, ce qui était très intéressant, c'est que évidemment, il fallait qu'on utilise l'architecture du visage de manière extrêmement précise de Nordine pour pouvoir justement avoir l'expression du regard très juste de la bouche, etc. Et en même temps, on a un petit Pérez qui a 8 ans, qui a évidemment pas du tout le même visage, puisque c'est un autre comédien. Et donc tout le travail consistait en fait à trouver une forme qui puisse être une forme fonctionnant pour les deux personnages, c'est-à-dire une forme qui permette de combiner en fait les deux architectures. Et donc on est arrivé à ce mix, qui est un mix du visage de l'enfant et du visage de l'adulte. Voilà, donc ça c'est Mireille Balin, donc, mais vous verrez tout à l'heure une photo de la comédienne. Mireille Balin, donc là c'est au championnat du monde, elle assiste au championnat du monde de boxe. Voilà, ça, c'est notre Pérez et notre Balin dans la voiture. Donc, vous voyez, effectivement... alors là, on n'a pas d'animation faciale, hein, vous n'avez pas les points.
C'est une Peugeot 601, il n'y a que 6 exemplaires au monde.
Vous l'avez vu en dessin tout à l'heure, mais Jean-Jacques insiste beaucoup sur la 601. Donc, Voilà, donc la comédienne que vous venez de voir, et vous voyez donc ces points pour l'animation faciale, donc les capteurs en fait, qui ont été posés sur les endroits clés des expressions. Visage.
Il y a aussi la question du traitement de la foule.
Alors ça c'est
qui est peut-être intéressant à aborder puisque vous avez pris d'autres options.
Alors c'est des options, ces options économiques.
Ouais.
Et puis c'est aussi des options plastiques qui vont dans le sens, je pense, du concept entre guillemets de la foule à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que on va travailler sur une matière foule. Je crois qu'il y a une planche avec du ciré. On a une planche avec de la foule, mais je fais beaucoup de fautes d'orthographe, donc vous allez en avoir pas mal sous les yeux. Donc j'ai un peu honte, mais je sais pas si tu vas la voir. Donc ça, c'est la foule en large. La foule, en fait, c'est une matière foule. Et donc, on va sans doute travailler avec de l'image d'archive qui va être refiltrée, retravaillée, anéantie, désintégrée, abîmée, broyée. Ça, c'est des morceaux du ring, des détails. Je ne sais pas si tu l'as, la planche de foule. Et donc, on a vu ça, par contre, on a vu déjà des tests qui sont assez concluants. Voilà, donc on voit en fait qu'on a une matière qui est relativement informe, mais qui, en fait, de par le peu d'informations que l'on a, devrait nous permettre de communiquer ce sentiment de masse et d'anonymat, et nous permettre aussi de faire surgir Balin et Bélier de la foule à ce moment.
Les grands enjeux, c'est l'incarnation du personnage et la reconstitution aussi d'une époque, j'imagine.
Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que là, se pose une question. Alors la reconstitution d'une époque, ça c'est une vraie question. Je ne sais pas si... moi je ne parlerai pas de ça comme ça en fait. Je pense qu'il faut réimaginer l'époque de là où on est. Je pense que le drame du film historique, c'est la reconstitution, et notre objectif n'est pas la reconstitution.
Mais la reconstitution peut être subjective.
Ben, c'est pas de la reconstitution, pardon. Non, enfin, je veux dire, il est très important. Enfin, le terme de enfin, l'idée de réimaginer ce monde-là, qui est un monde disparu, comme ce qui vous est arrivé il y a 10 minutes est disparu. Enfin, je veux dire, je m'attache beaucoup à cette idée que nous ne pouvons pas ni reconstruire et qu'il ne faut même pas espérer pouvoir reconstruire ni le passé, ni surtout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et qu'on ne peut, ma foi, que l'imaginer parce que, bon, certains d'entre nous sont éventuellement hantés par ce passé-là, précis, je parle. Hein. Mm-hmm. Je parle de, en l'occurrence, je parle de la Shoah.
Mais on peut avoir la sensation d'être dans cette époque ou pas.
Alors, on peut oui, ce qu'on essaye de faire avec Franck, parce que ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on travaille la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à être au plus près de ce que nous-mêmes pouvons imaginer de tout cela et comment le transmettre. C'est comme ça que j'en parlerai. Je peux pas. Je suis très inquiet par le mot reconstruction ou reconstitution parce qu'on reconstitue pas quelqu'un qui on reconstitue pas des centaines de milliers de gens en train de crever dans des camps, quoi, hein, pour dire les choses clairement. C'est un problème. Mais là c'est pareil que Franck. Mais c'est un problème théorique de scénario et de son rapport à l'histoire avec un petit H et un grand H. Évidemment, on fait pas n'importe quoi avec l'histoire et on peut pas, à mon sens, faire n'importe quoi avec les histoires. En l'occurrence, quand elles concernent des dizaines de millions d'individus.
Très bien. Je vais inviter les autres intervenants à nous rejoindre. Alors, on va approfondir un petit peu la thématique. Vous avez le droit d'intervenir, de poser des questions, évidemment, hein, que ce soit sur une partie vraiment documentaire, la question du documentaire animé, ou alors revenir sur des choses, sur des films qui vous semblent intéressantes. Alors déjà, je pourrais vous poser la question, vous, comment vous percevez cette question de documentaire animé? Est-ce que pour vous, il y a une part de documentaire animé dans votre film, à vous déjà?
Bon, voilà, c'est compliqué. Animé, documentaire... Ouais, mais je pense qu'on peut pas
être rapide. Il a fait une réponse très rapide aujourd'hui.
Non, on peut pas être rapide là-dessus. Enfin, si, on va être rapide quand même. Alors, documentaire... Bon, moi, je crois que c'est vous qui parliez de genre tout à l'heure. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si j'arrive pas à penser ça ni en termes d'animation, ni en termes de documentaire, ni en termes de fiction. Enfin, c'est une histoire qu'on essaye de raconter. Il se trouve que... il se trouve, pour être clair d'ailleurs, qu'on m'a proposé d'écrire cette histoire en prise de vue réelle et que j'ai refusé pour les raisons que je viens d'évoquer, et que par contre l'animation s'est imposée puisqu'elle permet justement de ne pas reconstituer mais de réimaginer. Donc à partir de la fiction documentaire, bien sûr qu'il y a une dimension documentaire de toutes les dans toutes les fictions, et bien sûr qu'il y a de la fiction dans tous les documentaires. Je crois que ce débat-là, il y a Chris Marker en face qui s'en est sérieusement occupé. On a dû, alors c'est quoi? Alors on s'est énormément documenté pour travailler graphiquement et puis sur l'histoire, effectivement les dates, etc. Alors est-ce que c'est un documentaire? En même temps, c'est évidemment pas un documentaire, puisque dans le documentaire, on est censé s'occuper de gens réels et de pas tout maîtriser. Enfin, je sais pas, non. Enfin, c'est de la fiction documentée, je crois.
On se poserait pas l'inverse. On se poserait peut-être pas la question si c'était un film avec des acteurs filmé en vue réelle. Question du documentaire.
Là, on se la poserait pas du tout, parce que de toute façon, on sait que voilà, il a fallu se documenter. Oui, alors, est-ce que se documenter, c'est aller à la Bibliothèque nationale? Je sais pas. Ça, c'est aussi un autre problème. Moi, j'ai l'impression que le film sur l'école est beaucoup plus documenté que.
Alors, est-ce que vous, toutes les deux, vous avez l'impression de faire du documentaire? Ou est-ce que vous vous posez la question déjà?
On a l'impression de faire du documentaire. Enfin, moi, j'ai l'impression de faire du documentaire.
Est-ce que Jeanne est d'accord?
Oui, c'est toujours dur ces questions-là, quoi. On a une matière sonore qui est documentaire au départ. Voilà. Après, l'image, elle est très décalée, ça c'est vrai. Elle est tout complètement...
Oui, mais l'envie au départ est le documentaire. Parce que nous, par exemple, on ne saurait pas du tout faire une fiction. On ne saurait pas le faire, on n'en a pas envie, on ne se sent pas capable. Alors que partir de matière réelle pour faire quelque chose... On appelle comme on veut, ça, c'est plus notre truc.
Mais quelque part, Claire, tu es un peu entre les deux, puisque tu pars du matière réelle, mais tu racontes vraiment.
Moi, je l'ai rejoint un petit peu dans l'utilisation de l'animation, c'est-à-dire que moi, c'est réécrit, c'est fictionné par rapport à ce qui s'est réellement passé. Les événements sont pas dans l'ordre. Et j'utilise un peu les deux argumentaires, c'est-à-dire que j'utilise au niveau du son des choses qui ont réellement existé, des dialogues réels. Je fais une espèce de radio documentaire de cette traversée, mais en même temps, c'est fictionné, c'est réécrit, pour, puisque justement, je ne suis pas non plus dans la reconstitution, mais dans le sentiment personnel, intime, vécu. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc, personnellement, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je fais un documentaire ? Au début, j'avais intitulé ça « Carnet de voyage », en même temps, c'est entièrement fictionné. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est qu'on est à la croisée de différents genres, et le fait qu'on se pose la question est intéressant en soi, en fait.
Alors, même avec Vatay Bachir, que j'évoquais, c'est vrai qu'on est aussi sur quelque chose qui est très, très à mi-chemin. J'imagine qu'au départ, c'était plutôt un projet documentaire, mais peut-être que l'animation l'a tiré vers quelque chose qui est plus narratif.
Dans Valse avec Bachir, en fait, c'est le film qui a fait que on commence vraiment à parler de documentaire animé, qui a eu cette vague de mode, en fait, où tout le monde tout d'un coup a voulu faire un documentaire animé. Ceux qui faisaient de la vue réelle se sont dit, ah, mais l'animation c'est formidable. Ceux qui faisaient de l'animation se sont dit, tiens, le documentaire c'est intéressant. Et donc c'est intéressant parce que ça a relié des mondes qui étaient relativement disjoints. Mais ce qui est très particulier dans Valse avec Bachir, c'est que il y a en même temps la fiction, sa reconstitution personnelle, qui n'est pas vraiment une reconstitution, qui a un décalage de l'animation, de son histoire. Il n'avait pas de documents.
C'est aussi un journal, quelque part.
C'est aussi un journal, c'est son périple à lui, c'est sa mémoire. Et en même temps, ce qui lui rend ce côté très documentaire, c'est les interviews avec les gens, qui là, vraiment, fait partie de l'écriture documentaire classique. Et c'est ça qui lui a vraiment donné cette espèce de documentaire animé, de titre documentaire animé. Le succès du film aussi.
Au-delà de l'aspect purement documentaire, est-ce qu'un film justement comme Vatay Bachir n'a pas ouvert des portes pour des projets comme le vôtre en se disant on peut faire finalement, en utilisant l'outil animation, on peut faire toutes sortes de films pour tous les publics?
Absolument. Non, Valse avec Bachir a été pour nous bien sûr un déclencheur. D'ailleurs, sur les mêmes types de problématiques, c'est-à-dire qu'il se posait la même question, c'est comment je vais montrer ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas vu, ce que j'ai toujours pas compris, que j'ai vu, et comment en fait je vais chercher à voir en faisant le film, parce que ça c'est très important. Moi je crois qu'on essaye de trouver quelque chose en faisant les films, de voir quelque chose, de mettre le doigt sur quelque chose. Je veux dire, c'est pas quand il est fini qu'il est intéressant le film, c'est quand on le fait. Enfin, ça c'est mon point de vue, hein. Et je pense que c'est le point de vue de, je sais plus son nom d'ailleurs,
Harry Folman.
C'est très intéressant de voir le dernier film d'Harry Folman.
Le congrès,
enfin, je veux dire, c'est un film absolument passionnant où il nous règle la question du documentaire, de la fiction, de l'animation, de je sais pas, tout ça est réglé d'un coup de cuillère à peau. Moi, on est extrêmement malheureux que ce film n'ait pas fait plus d'entrée d'ailleurs. Ce qui me fait dire aussi que oui, Valse avec Bachir ouvre à l'évidence une route pour les gens qui rêvent de faire des films. Ça n'en ouvre pas, ça je vous garantis, en termes de financement. Parce que là, c'est une météorite, hein. C'est pas Valse avec Bachir. On croit que après ça, on va pouvoir enfin utiliser l'animation, la fiction, le machin, mélanger tout ça. Que nenni.
Et le film a été fait dans une économie minimale aussi.
Ah ben avec en tournant en storyboardant dans le jardin.
On essaie de faire pareil avec nos petites voitures.
Nous, c'est sur le lit. Hein.
L'animation, en tout cas, rajoute une couche supplémentaire. En tous les cas, c'est ce traitement graphique, ce commentaire graphique sur une histoire qu'on raconte, qu'elle soit documentaire ou pas, ça rajoute une couche qui peut aller... on peut aller un peu dans tous les sens. Et est-ce que vous avez dit parfois « Ah oui, c'est ça qui va me permettre d'évoquer quelque chose que je ne pourrais pas dire autrement » ou est-ce que vous êtes dit parfois en voyant des films non, ça alourdit tout, ça perturbe une certaine force du propos. On a tous en tête des documentaires, on se dirait mais c'est impossible de mettre de l'animation dessus. Enfin, je sais pas, vous êtes posé ce genre de questions. Est-ce que jusqu'où aller dans, notamment pour vous toutes les deux, jusqu'où aller dans le traitement de l'animation pour ne pas pervertir finalement la force d'un propos qui pourrait être plus fort, peut-être, si on était plus sobre.
C'est-à-dire en prise de vue réelle ?
Par exemple, ou jusqu'où on va dans l'animation ?
Je peux... Oui, pardon.
Ouais,
vas-y. Ouais. Moi, j'ai vécu une expérience très puissante, très forte, lorsque cet hiver, mais je crois qu'on en parlait l'autre jour un petit peu au téléphone, cet hiver, je suis allé à Birkenau. Et... J'ai commencé ce film en pensant à peu près contrôler la machine, quoi, et en me disant oui, effectivement, on ne peut pas montrer, on ne peut qu'imaginer, etc. Bon, voilà. Je suis arrivé à Birkenau et j'ai regardé devant, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, et c'était infini. Et je me suis dit qu'avec une vraie caméra, je ne pourrais jamais montrer ça. Ce n'était pas possible de le montrer. Alors c'est vrai que moi je trouve que la question qui est posée là est vraiment une question importante, entre autres par rapport à l'animation. Il est évident qu'il y a... Alors, on voit très souvent effectivement une certaine forme de maniérisme dans l'animation. C'est-à-dire, vous parliez de couches, et effectivement il y a comme ça ce principe très décoratif de l'animation. C'est des choses très, très mignonnettes, très jolies, qui se posent comme ça et qui finissent par camoufler complètement le contenu, si tant est qu'il y ait du contenu, mais ça c'est un autre problème, hein, qui est quand même assez courant dans l'animation aussi. On le voit quand on va à Annecy, hein, c'est assez fatigant d'ailleurs. Mais non, c'est vrai. Je passe pas de message. Enfin voilà, les histoires, l'histoire, la narration, c'est quand même quelque chose qui est central, quoi. Et enfin, il me semble. Hein. Bon, non, alors d'accord. Mais bon, bref. Et donc, c'est comment on fait pour penser à un moment donné l'image? Comment on fait pour penser l'image pour qu'elle n'existe pas, pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle ne soit pas centrale, pour qu'elle soit à un moment donné juste là, servir une mise en scène, un propos, une histoire racontée? Et pas forcément, comme dans le maniérisme, se mettre à exploser, à exister, à couvrir tout. Et quand je suis arrivé à Birkenau et que j'ai vu effectivement cette perspective infinie en face, à droite, à gauche, je me suis dit une bonne fois pour toutes que je n'avais pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de tomber dans un maniérisme, de me faire plaisir, de tomber dans une espèce de rendu surplastique, spectaculaire, d'utiliser en fait cette matière pour moi, quoi, que c'était pas possible, que j'étais là pour raconter l'histoire de ce garçon, que j'étais là pour le montrer, le faire vivre et servir le récit, et voilà. Et il se trouve effectivement que c'est le miracle du dessin, mais on dessine je pense tous autour de cette table, pas toi. C'est le miracle du dessin, c'est qu'à un moment donné il est capable effectivement de dire des choses très simplement, ou en tous les cas de les dire de manière très frontale, très directe, chose qu'on ne peut pas forcément faire avec de la prise de vue réelle.
C'est là-dessus que je te rejoins tout à fait, c'est-à-dire qu'on évite la surcharge. On va au direct, on va à l'essentiel, et c'est ce que j'aime beaucoup dans votre travail, même dans vos films précédents, c'est qu'on n'a pas tout. Et on permet aussi parfois d'être plus généraliste, c'est un peu ce que je cherche à faire, et c'est aussi ce que vous cherchez à faire, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas, c'est l'école de ce quartier dans cette banlieue que je connais, non, c'est une école avec des enfants un peu difficiles, une classe difficile à tenir, comme il y en a beaucoup ailleurs aussi, et donc d'atteindre un certain généralisme tout en partant d'une histoire particulière. Et ça permet d'aller à l'essentiel. Une représentation décalée permet aussi de ne pas tomber dans le pathos de ce petit enfant qui a cette tête-là, ou cet équipier qui a cette tête-là, avec cette vague plus ou moins grosse. On est vraiment dans les émotions et avec les gens. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ce que j'ai vu, et puis j'ai l'impression que c'est aussi vers ça que vous allez.
Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose, non?
Nous, on s'est un peu confronté à ça. Je suis d'accord aussi avec ce que vous dites, mais on s'est confronté à ça précisément pour la question de comment représenter les personnages dans le film. Au départ, on pensait représenter les instits comme un personnage. En fait, on ne savait pas. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, une espèce de truc hybride qui servait pour tout le monde, ou les vieux instits tels qu'on les voit dans les manuels scolaires. On pensait que tout ça marcherait. Et en fait, ça apportait trop de décalage. On s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on avait besoin quand même que ça soit ancré dans une réalité plus actuelle. Et que du coup, le fait d'avoir d'avoir des visages de vraies personnes, en plus ensuite, il s'est trouvé que c'était les leurs, et de vrais enfants, et que ce soit des vêtements d'enfants d'aujourd'hui et pas des vêtements des enfants des années 60 comme ils sont dans les bouquins, ça apportait à notre propos. Et qu'on avait besoin de ça pour équilibrer aussi, parce que sinon il y avait trop de distance entre le son et l'image et qu'on perdait un peu pied avec le réel.
Il faut l'accrocher à un certain moment, quoi.
Y a-t-il des questions? Alors, incontournable Alexis.
Je te remercie. J'ai plusieurs question, j'ai évité les réactions. Déjà, une première question à Jeanne et Cécile. Vous avez, depuis Paul jusqu'à Je suis une voix, vous avez fait beaucoup de choses sur documentaires animés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des trucs, à un moment donné, pour ce film-là, vous avez encore, donc, comme vous disiez, pris 5 ans pour faire le film, il n'y avait pas, il y a pas des trucs sur lesquels vous êtes raccroché sur les films précédents qui auraient pu vous aider, finalement, dans l'écriture du scénario ou du storyboard, ou je ne sais pas, ce genre de choses?
En terminant Je suis une voix, on a fait une pile de dossiers de rebuts, c'est-à-dire toutes les scènes qu'on n'a pas filmées. Et ça, on aurait beaucoup aimé faire un film avec pour ne pas les avoir dessinées pour rien. Bon, en fait, on ne l'a pas fait. Mais non, en fait, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je pense qu'il y a des choses, mais je ne sais pas les nommer. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire, il y a une connaissance l'une de l'autre, il y a des envies... je sais pas, une utilisation de la métaphore, je pense, de temps en temps, mais des trucs, je saurais pas dire. Je pense que les gens qui voient notre film maintenant, nos films d'avant, ils savent faire des liens. Nous, on doit en faire aussi, mais je pense, par exemple, ce décalage qu'il y a entre le son réel et, enfin, ou le propos et le dessin ou l'abstraction ou justement une image un peu amusée, enfin un peu décalée. Je pense que ça, c'est peut-être... mais est-ce qu'on peut appeler ça un truc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un lien avec d'autres films.
Le mot truc n'était peut-être pas le bon. Hein, c'était juste, est-ce qu'on n'a pas une manière de faire qui fait qu'on, voilà, que ça nous permet d'aller un petit peu plus vite? Voilà, ah, ce n'était pas forcément ouais. Truc. Hein.
Alors, par exemple, le fait d'aller plus vite, nous, on s'est souvent dit, enfin, on s'est toujours dit que l'animation, c'était long et qu'il fallait trouver des astuces pour aller vite. Donc on joue avec ça, ça c'est sûr, de façon... Donc par exemple, comme le disait Cécile, utiliser des papiers découpés pour quelque part gagner du temps, c'était un jeu, une envie de découvrir aussi voilà, une matière et tout ça, mais c'était aussi ce jeu-là, quoi. C'est-à-dire d'avoir envie de faire de l'animation, mais, gagner, mais quand même trouver des astuces. Donc peut-être ça, ça fait partie des choses.
Alors je ne peux pas faire autrement que de réagir, désolé. Il fallait que je réagisse sur...
Après ça, tu passes le micro.
Très rapidement. Non, mais juste par rapport, évidemment, à l'animation. J'ai l'impression qu'il y a une petite, peut-être une méconnaissance, si je peux me permettre, un peu du monde d'animation. C'est un peu mon boulot, donc voilà. Un film comme Les oreilles n'ont pas de paupières, par exemple, d'Étienne Chaillou, qui vient de l'ENSAD, qui parle justement des camps de concentration, et très épuré, hein, ne va pas dans, justement dans cette surenchère qu'il peut y avoir de temps en temps dans l'animation. Donc je pense voilà, qu'il y a peut-être des choses à voir. Je voulais essayer de répondre. Et juste... Puisqu'on a l'impression qu'en effet, l'animation a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses. J'ai lu dans un article du film français que le film allait coûter à peu près 5-6 millions. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que, pourquoi donc cette volonté de faire de l'animation, à part peut-être le côté justement des décors, quelqu'un comme Karel Zeman, par exemple, des gens comme ça, travailler de la prise de vue réelle et des décors sans qu'il y ait cette problématique-là?
Est-ce que la question est bien pourquoi on ne fait pas en prise de vue réelle? Parce que je n'ai rien compris, hein, moi. Pardon. Hein, mais... Ah oui, c'est ça, pourquoi je ne le fais pas en prise de vue réelle?
Non, pourquoi vous faites en animation?
Bah, vous voulez que je le fasse comment?
Je vous demande, c'est une question.
Bon, oui, mais je vais vous répondre. En fait, ce n'est pas moi qui vais vous répondre parce que cette question revient tout le temps. Je suis très, très étonné qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Vous avez déjà fait un casting de déporté? Vous avez déjà mis un mec, reconstruit une chambre. Vous imaginez ce que c'est reconstruire une chambre à gaz? Vous oseriez le faire?
Vous voulez pas la reconstruire?
Ah ben, vous avez compris, là. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc qu'un monsieur qui s'est pas mal occupé de dessin et que j'aime beaucoup. Je suis obligé de le lire, hein, parce que j'ai ma mémoire est défaillante. Je suis plutôt jeune. Bon, je vous dis pas de qui il s'agit. Je vous le dirai après. Les réalisateurs peuvent s'impliquer dans une tentative folle de reconstruction des camps ou bien les recréer comme zone mentale. Il parle de tentative folle de reconstruction des camps. Hein. Okay. Ou bien les recréer comme zone mentale. Qui ça peut être, ça? Ben, c'est monsieur, pardon, Art Spiegelman. Qui avait fait une... Ça a pas l'air bon. Alors, c'est une bande dessinée qui s'appelle Mouse. Ben, j'imagine. Comment? Non, mais voilà, je veux dire, il y a des gens qui réfléchissent. Enfin, je veux dire, il y a un monsieur... Bon, alors moi, Lanzmann, je pense qu'il va m'insulter, parce que même là, je vais trop loin, déjà. Mais il y a quand même des gens qui ont réfléchi sérieusement sur cette question. Il se trouve que moi, à un niveau personnel, cette question me hante. Je peux vous épeler mon nom, on va comprendre assez vite, et que je cherche depuis 30 ans une manière d'arriver, moi, à me sortir de cette histoire, et éventuellement, ce qui me semble beaucoup plus important encore, de la transmettre. Et il se trouve qu'à un moment donné, pour la transmettre, on se met à se dire, grâce à Valls avec Bachir, tiens, peut-être que le fameux univers mental dont parle Art Spiegelman, je peux m'en servir. Voilà. J'ai répondu. Non. Non, vous n'êtes pas convaincu du tout. Peut-être qu'il ne faut pas faire de film sur cette question. Ça, c'est, ouais, ça je comprendrais.
Non, ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement très, très compliquées à reconstituer, revoilà le mot, en image réelle. Et que peut-être, de toute façon, le propos n'est pas là. C'est pas la reconstitution exacte d'un lieu, mais c'est ce qu'évoque ce lieu. Et peut-être que l'animation, effectivement, donne une liberté par rapport à ça, et peut-être une force d'évocation assez puissante. Enfin, on peut essayer, en tout cas.
Si on pousse un peu le raisonnement, et pas forcément pour faire de la provocation, parce que là, on va finir par passer pour des dangereux terroristes. Non, ouais, c'est fait. Hein. Non, il y a juste un truc. Alors c'est pareil, Jean-Jacques vient de citer Spiegelman. Moi, je citerai Bacon, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais qui est quand même, je trouve, pas mal. C'est la peinture ment, c'est pour ça qu'elle dit la vérité, quoi. Et l'animation, vous nous dites pourquoi le faire en animation ? Moi, l'animation, pourquoi l'animation ? Je ne suis pas un ayatollah de l'animation, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'image et c'est le médium. C'est un médium, c'est quelque chose qui est entre moi et le monde. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est le médium. Je ne sacralise pas le médium, je ne sacralise pas plus la peinture que le dessin, que l'animation, que le cinéma, que le théâtre, que la littérature, que la musique. Je ne sacralise aucun des médiums. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à un moment donné de me mettre en relation avec le monde. Donc il se trouve qu'effectivement, il y a un truc qui s'appelle l'animation et c'est un médium. Donc on se sert de ce médium pour raconter et on l'utilise en ce sens. Ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça. C'est pas une pause de ma part, hein, et je pense que Jean-Jacques partage à peu près mon avis là-dessus. Voilà, il se trouve que c'est de l'animation, mais ça aurait pu être autre chose. On aurait pu très bien écrire le texte. Bon, il se trouve que moi, j'aime beaucoup dessiner. Il se trouve que Jean-Jacques raconte bien des histoires, qu'il a l'habitude de le faire. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés, qu'on a décidé d'utiliser ce médium pour se mettre d'accord. Alors, effectivement... Hein, je le vois, il se décompose, le pauvre. Mais non, mais
on en parlera après, peut-être.
Je peux juste rebondir.
Vous répondirez si vous le souhaitez.
C'est une question qu'on nous pose toujours, en fait. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre de la production, de présentation des projets, et même parfois en cours de production ou après, mais pourquoi en animation ? Et on ne pose jamais la question à un peintre, pourquoi est-ce qu'il peint ? Généralement, les films de plus réels, on ne leur pose pas la question. Pourquoi vous avez fait ça avec des acteurs ? C'est comme si l'animation, c'était un espèce de sous-genre. C'est une chose qui me gêne un peu.
Si vous voulez. Non, mais juste, c'est juste un petit mot. Non, si vous voulez, je suis un petit peu énervé parce que c'est une question qui revient tout le temps. Et je finis par avoir l'impression vraiment de gêner, quoi, de déranger ce monde donc de l'animation. Moi, c'est pas grave, hein, parce que je peux repartir vers de là où je viens. Au fond, si on ne veut pas là, j'irai ailleurs. Il y a des histoires comme ça. Mais vous voyez, c'est systématique. C'est Lyon, c'est Annecy, c'est tout le temps. Cible, pourquoi vous venez nous emmerder, en gros ? On a nos Mickey qui sont rigolos et qui se vendent très bien.
Oui,
c'est
pas dans ce sens-là qu'il posait la question, je pense pas. Mais, alors, peut-être une autre question ?
Non, excusez-moi, je voulais juste vous dire, je crois qu'il y a un malentendu, parce que vous vous sentez agressé quand on vous pose cette question, et en fait, c'est pas le monde de l'animation qui vous agresse. Et si on pose cette question... C'est souvent parce que, par exemple, votre projet à vous, c'est pas le cas du film de Cécile et de Jeanne, mais votre film à vous, parce que vous dites, moi j'aime les acteurs, et il pourrait se prêter à un projet de fiction classique, et c'est pour ça qu'on vous pose la question.
Je voulais en fait revenir sur la question du débat, est-ce que c'est ou pas une fiction ou un documentaire ? Et d'ici, de la façon dont vous êtes posé sur la scène, je vois une espèce de... Enfin, deux variables par rapport aux trois expériences. Donc, il y a une variable biographie et autobiographie. Donc Claire, elle a vécu les choses. Le deuxième film, elles ont vécu, mais elles ne s'en servent pas comme personnage. Et vous, vous n'étiez même pas né. C'est une biographie d'un fait de l'histoire. Comme cette comparaison elle a été commencée par, avec le film de la valse des Bachir, qui c'est une autobiographie, mais éloignée dans le temps, donc il y a plusieurs croisements qu'on peut faire pour essayer de comprendre est-ce qu'on est ou pas dans le documentaire. Et il y a aussi la question du temps. Donc il y a Claire qui a documenté une chose qu'elle vivait, donc elle documentait pratiquement le réel, même si après il y a un travail qui vient après. Il y a le deuxième, le cas de CED, de CED
et de Coquelicot,
voilà, qu'elles ont à peu près dit qu'elles ont vécu une certaine partie des expériences. Donc il y a cette notion de l'expérience, est-ce que du vécu dans le documental, voilà. Donc et après c'est marrant parce que Claire elle a dit qu'elle se sent ou qu'elle n'a jamais posé vraiment la question si c'est du documentaire, et finalement ce serait peut-être selon cette classification de la façon qu'on vous a posé celle qui se rapprocherait plus du documentaire de mon point de vue. C'est juste marrant, c'est juste pour revenir à la question par rapport à ces deux variables, le temps de l'expérience vécue ou de l'expérience qui est racontée et la participation, l'intégration des réalisateurs dans la propre histoire.
Du coup, ça m'amène à quelque chose, c'est que finalement, quand on fait un film, on ne se pose pas forcément la question de savoir si on fait un documentaire ou pas, on fait un film, et peut-être que justement, ces projets-là font que on abolit un peu les frontières. C'est vrai que la frontière entre film de fiction avec des acteurs et film documentaire où on est plutôt dans le témoignage et capter des images réelles, entre guillemets, est un peu abolie par ces questions-là. Et d'ailleurs, y compris dans votre projet où on a des acteurs, on a de l'animation, ça pose problème apparemment. Donc effectivement, le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est que vous êtes sur des projets de film et vous utilisez les moyens que vous avez à votre disposition pour raconter selon votre point de vue à vous. Et puis après, on les met dans la catégorie où on veut.
Oui. J'aime bien effectivement le détail des différentes approches, puisque puis en plus on s'est mis dans cet ordre-là, c'est pas fait exprès, mais je trouve que c'est une belle analyse. Et dans les choses qui finalement nous rapprochent ou nous éloignent, c'est que Cécile et Jeanne et moi, on utilise du son réel, du son enregistré. Et elle, c'est vraiment leur matière. C'est pour toutes les deux nos matières d'écriture. Et on a ce côté en fait radio. C'est la partie audio est vraiment la partie pure documentaire qu'on peut vraiment relier au réel directement. Et après, effectivement, de toute façon, tout est écrit. Elles écrivent directement avec la matière. Moi aussi, mais je suis un peu plus loin parce que je suis obligée d'être beaucoup plus concise. Et leur matière à eux, effectivement, plus lointaine, documentée au niveau de l'archive, en fait. Donc on a en même temps, quelque part, on pourrait presque dire qu'ils sont plus documentaires que mon film, qui est beaucoup plus intime, parce que c'est une histoire. En plus, elle nous parle de la grande histoire avec un H. Mais d'un autre côté, dans la matière pure, j'ai peut-être plus, moi et Jeanne et Cécile, on a peut-être plus de matière documentaire pure puisqu'on a l'audio. Donc c'est intéressant de voir effectivement tout ce. On est de toute façon un peu dans le transgenre. On est documentaire, on est animation, on est tous réécrits, toute façon une partie fictionnelle. Donc merci pour votre analyse.
Je crois qu'il est temps de conclure. Est-ce qu'on prend une dernière question ou c'est Grand Manitou qui... Oui. Voilà, je fais ce qu'on me dit. Hein. Si vous voulez qu'on continue, on peut un petit peu.
Alors moi, je voudrais savoir, par rapport à Young Perez, est-ce que le fait de l'animation, vous allez utiliser le son pour faire un documentaire, ou alors justement, vous allez faire avec du son quelque chose de plus expérimental, comme on a vu dans le petit extrait vidéo.
C'est un film, hein, donc avec des acteurs, et il y aura plein de sons, parce que ça durera 90 minutes. Après, les acteurs vont être enregistrer, on va
mixer. Comme souvent, hein, il y aura de la vraie musique, de la fausse musique, de la musique d'à côté. Enfin voilà, il y aura du direct. Moi, je voudrais utiliser au maximum le direct, comme si on tournait réellement. Ouh là là. moi, je voudrais quand même. J'ai répondu. Voilà, juste sur un petit truc. Ce qui me fascine quand même, c'est que quand vous dessinez Mickey, vous avez Mickey. Mais Marilyn Monroe, c'est quoi ? Marilyn Monroe, c'est une forme. Hein ? C'est quand même une forme qui bouge dans un écran. Je ne parle pas de Cary Grant, qu'on prend à cause de la manière dont il bouge. Je veux dire, je ne sais pas quelle est cette mythologie de l'acteur, alors humain. Non, bien sûr que non. C'est des figures, tout ça. Alors un coup c'est Mickey, puis un coup c'est Cary Grant. Eh oui.
Ça va bien se passer, Jean-Jacques.
ça va bien se passer.
Et donc pour terminer sur la musique que vous évoquiez, la petite séquence qu'on vous a montrée de quelques secondes en fait correspond à la fin du pilote, aux quelques secondes de fin de pilote, du pilote. Le son que l'on a amené sur cette espèce de nappe en fait que vous avez entendu qui concluait les coulures de peinture. Alors d'ailleurs, sur les histoires de technique, sur cette image que vous avez vue, la peinture est une peinture qui est faite en prise de vue réelle, qui a été ensuite recompositée, retravaillée. Oui, faut pas que je dise ça. C'est de la prise de vue réelle quand même. Non, non. Tu crois que j'ai pas le droit de dire ça ? Et je la ferai en point de croix la prochaine fois.
Je pense pas que ce soit un problème, mais bon.
Mais sur le son. Ce son a été choisi pour amener effectivement quelque chose d'intéressant en ce qui nous concerne, enfin à nos yeux, sur cette chute, mais on ne considère pas forcément ça comme étant expérimental. C'est un film grand public, même si là on en parle de manière peut-être un peu sérieuse. C'est un film grand public, c'est un film qui s'adresse. C'est une histoire d'amour. C'est pas, y aura pas d'image d'archive en tant que telle. C'est vraiment, des acteurs qui vont jouer et qui Jean-Jacques a travaillé beaucoup de documentation, mais a écrit par rapport à cette documentation et a pris, je pense, je sais pas si je dois dire ça,
beaucoup de
liberté par rapport à. J'ai demandé son autorisation. Mais beaucoup de liberté par rapport effectivement à la vie entre guillemets officielle de Pérez. Et un dernier mot peut-être, je ne sais pas si vous avez été attentif à un moment donné, je crois que c'était tout à l'heure en off, mais le jour où Pérez est mort, en fait, ce jour-là, on ne le connaît pas. Et Jean-Jacques dit il est mort le 22, le 23 ou le 24. Et c'est là, je pense, où il y a quelque chose qui se met en place par rapport justement à cette idée de documentation ou fiction. Enfin, pour revenir un peu, c'est que... Ben voilà,
mais vous êtes quand même sur le traitement sonore, vous êtes quand même sur quelque chose qui est différent d'un tournage classique avec des acteurs, puisque vous êtes dans un studio, donc vous allez devoir recréer le.
Pardon.
Oui, ben si. Vous...
Mais Fellini.
Oui, c'est vrai, mais c'est aussi un. C'est aussi une démarche particulière du traitement du son. Donc c'est un traitement sonore a posteriori, qui peut être très réaliste ou pas d'ailleurs, on peut choisir, mais vous allez être dans cette logique-là qui n'est pas forcément la démarche la plus courante quand on tourne un film classique, on veut dire.
Il y a beaucoup, quand même beaucoup. Enfin, il y a Fellini, mais enfin, ils sont beaucoup hein, quand même à recréer. Je ne parle même pas de Kubrick, de travail de sonore qu'il fait. Enfin,
mais je dis ça dans un sens où c'est probablement assez excitant d'imaginer qu'on va pouvoir travailler cette matière sonore comme ça, de façon très spécifique.
Mais absolument, non, mais c'est extraordinaire. Et on retombe d'ailleurs sur le questionnement du documentaire, de la fiction, de l'histoire, etc. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans la situation de recréer, de notre point de vue, y compris au niveau sonore, un monde disparu, qui est un formidable documentaire sur la mémoire, hein. Que nous n'avons pas, par définition.
Voilà une partie documentaire du film. Une dernière question, peut-être ? Non, mais s'il n'y a pas... On arrête là, et c'est très bien, on est déjà un petit peu en retard. Bon, mais en tout cas, je vous remercie. J'ai trouvé ça très intéressant, moi. Merci à tous ces intervenants. Et puis, on attend de voir les films, maintenant. Hein. Voilà.